DW. Magazine Santé.
Le changement climatique, depuis quelques années maintenant, on en parle de plus en plus. Si le changement climatique a un effet indéniable sur l'environnement, son impact sur la santé des populations et plus largement sur le système sanitaire est aussi une réalité et il en est question dans ce magazine. En seconde partie d'émission, nous irons au Cameroun pour parler de l'hépatite B. Carole Assigny au micro, vous écoutez Capsule Santé. Bonjour à toutes et à tous. Vagues de chaleur, inondations, tempêtes et incendies. L'augmentation de tous ces phénomènes liés au changement climatique a un impact sur l'environnement, mais aussi la santé physique et mentale des populations touchées. C'est ce que nous explique Jocelyn Léon, délégué général d'Amref Health Africa France, une ONG qui mène des actions dans le domaine de la santé publique en Afrique.
L'Afrique est une des régions qui est les plus vulnérables aux effets négatifs sur le changement climatique. Et le changement climatique, ce n'est pas qu'une question environnementale, c'est aussi une crise sanitaire silencieuse qui frappe d'abord les plus vulnérables et qui aggrave les inégalités. Le changement climatique est un multiplicateur de crises sanitaires. Il y a l'augmentation des maladies vectorielles, comme le paludisme ou la dengue. Donc en Afrique de l'Est, par exemple, le paludisme aujourd'hui s'étend à des altitudes beaucoup plus élevées parce que les moustiques prolifèrent à cause de la chaleur et des pluies irrégulières. On a ensuite les cyclones tropicaux qui entraînent des crises d'accès à l'eau et des flambées de choléra et de diarrhée. L'insécurité alimentaire qui est due aux sécheresses et qui cause des effets en cascade sur la nutrition des populations. Les phénomènes météorologiques qui sont extrêmes, de plus en plus présents, comme les sécheresses, les inondations, aujourd'hui, ils ont un impact direct sur les infrastructures des soins de santé et ils causent des morts, hein, comme ça a été le cas en Afrique de l'Ouest et centrale, avec 1500 victimes. Et on a eu aussi 1 million de personnes déplacées qui vont ensuite aller dans d'autres pays, des pays hôtes, et qui vont peser sur les systèmes sanitaires qui sont déjà menacés. Donc, comme on le voit, ces phénomènes extrêmes détruisent les infrastructures sanitaires, y compromettent l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, et y rendent la couverture sanitaire universelle encore plus difficile à atteindre.
Et on imagine qu'il y a aussi un impact hein, sur la santé mentale des populations affectées.
Quand il y a une santé ou un accès à la santé qui ne vient pas, effectivement, ça devient de plus en plus complexe pour les populations d'arriver à se projeter, d'arriver à trouver des systèmes économiques pour leur permettre de survivre, d'accéder au système de nourriture, au système donc alimentaire et aussi au système économique pour les besoins de leur famille.
Et dans ce contexte, quelles sont les options pour lutter efficacement contre cet impact sur la santé des populations?
Pour nous, la meilleure réponse, c'est un système de santé qui est résilient et qui est capable d'absorber les chocs climatiques. Donc on va travailler sur le renforcement des systèmes de santé primaires avec la prévention et aussi les soins de proximité. Hein. Bien sûr, toujours les communautés qui sont au cœur de la crise, au cœur de ces systèmes, mais aussi former des professionnels de santé qui sont capables de répondre aux nouvelles pathologies liées au climat et détecter les alertes précoces. Parce que ce sont les gens qui sont dans les communautés qui peuvent mieux répondre aux menaces émergentes et éviter qu'elles se propagent. Et ensuite, il faut aussi investir dans la prévention communautaire, avec l'éducation à l'hygiène, à l'eau, à la nutrition et mettre l'accent sur donc la prévention, la santé primaire et l'autonomisation des femmes et des filles. Il y a aussi bien sûr la coopération entre les États, avec les ONG, les associations, les bailleurs de fonds, le secteur académique, parce que la lutte doit être globale et intégrée. Je peux vous citer un petit exemple des recommandations qui sont sorties de la conférence AIC en 2025. C'est une conférence sur l'agenda de la santé en Afrique qui a été montée par AMREF. La dernière édition en 2025 s'est déroulée au Rwanda et les recommandations apportaient justement qu'il fallait accroître le financement national de la santé pour les pays en charge, bien évidemment, déjà en Afrique, mais aussi renforcer les systèmes de santé communautaires, intégrer ces enjeux climatiques dans le renforcement des infrastructures avec des innovations technologiques qui permettront justement d'être plus résilients et promouvoir justement l'innovation et les solutions locales.
Au niveau d'AMREF, quelles sont les actions que vous menez concrètement sur le terrain pour soutenir justement les communautés les plus vulnérables ?
AMREF Health Africa. Donc c'est une ONG africaine qui est totalement ancrée dans les communautés, c'est notre approche phare, et qui investit dans des solutions durables. En 2024, nous avons pu soutenir plus de 19 millions de personnes dans plus de 40 pays africains. Nous menons de concert 190 programmes de santé, tant sur la santé maternelle, infantile, la nutrition, l'accès à l'eau, la formation du personnel de santé et aussi les soins de santé spécialisés. Donc nous, on agit à plusieurs niveaux. Ça va être, par exemple, des constructions de puits, de citernes, d'infrastructures sanitaires, et notamment dans les zones rurales, pour pouvoir prévenir les maladies hydriques. On va aussi former des communautés à la surveillance météorologique et à la gestion des risques climatiques pour qu'ils soient plus alertes. Nous allons aussi appuyer des centres de santé pour garantir des conditions d'hygiène adéquates et former les sages-femmes et les agents de santé communautaires afin qu'ils améliorent l'accès à la santé pour les populations. On déploie donc des programmes aussi de nutrition et de santé reproductive, particulièrement pour les femmes et les enfants. Et on collabore aussi avec les gouvernements et les partenaires techniques pour pouvoir renforcer les systèmes de santé communautaire. Donc on fait aussi, et ça c'est plus à un niveau international, du plaidoyer pour pouvoir intégrer la santé dans les politiques climatiques, notamment lors des forums internationaux. Pour conclure, la résilience sanitaire va passer automatiquement par la résilience climatique. Nous essayons chaque jour de travailler avec les communautés pour bâtir des systèmes de santé plus forts et capables de résister aux crises de demain. DW.
Capsule Santé, seconde partie, direction à présent le Cameroun pour parler de l'hépatite B. Il s'agit d'une inflammation du foie causée par un virus. Chaque année, l'OMS enregistre 1,2 million de nouvelles contaminations. Au Cameroun, 13% de la population est touchée par l'hépatite B. Pour éviter de nouvelles contaminations, les autorités misent sur la vaccination. Plus de détails avec notre correspondant à Douala, Henri Fotson.
Le Cameroun, qui est en Afrique subsaharienne, est situé dans une zone de forte endémicité, c'est-à-dire une zone là où la prévalence est supérieure à 8%.
Le professeur Servet Elumou est hépato-gastro-entérologue. Il donne ainsi des précisions sur la prévalence de l'hépatite B, une inflammation du foie due au virus B dans son pays.
Et précisément au Cameroun, la prévalence est entre 12 et 13%. C'est-à-dire que pratiquement 13 personnes sur 100 sont porteuses du virus de l'hépatite B au Cameroun, ce qui est quand même non négligeable.
Selon l'OMS, l'hépatite B touche de façon chronique 250 millions de personnes dans le monde. Au Cameroun, 3,5 millions de personnes portent le virus. Le directeur de l'hôpital de district de Dedo à Douala tire sur la sonnette d'alarme.
C'est très très grave et je pense que les populations doivent le savoir et pour pouvoir savoir aussi comment s'en prémunir et surtout connaître les complications.
Il existe 4 modes de contamination au virus de l'hépatite B. Les rapports sexuels non protégés, la manipulation de certains instruments, par exemple lors des opérations de piercing, de tatouage, de scarification et la consommation de la drogue parfois intraveineuse. Il y a aussi la transmission intrafamiliale à travers les objets tels que les brosses à dents exposées au virus lors d'un saignement buccal. Et enfin, la contamination mère-enfant au moment de l'accouchement.
En Afrique subsaharienne, surtout dans les zones de grande endémicité, la transmission est beaucoup plus une transmission, on l'appelle verticale, de la mère à l'enfant, où la mère qui porte le virus de l'hépatite B peut transmettre le virus à son enfant au moment de l'accouchement, parce que c'est en ce moment que vous avez ce qu'on appelle les manœuvres obstétricales. Le sang qui passe de la mère pour son enfant, pour le nourrir à travers le placenta, ne peut pas transmettre le virus de l'hépatite B. C'est dans les manipulations, il faut une plaie pour pouvoir avoir cette transmission. C'est la même chose lors de l'accouchement. Le nouveau-né peut avoir une éraflure, le sang de sa maman va entrer en contact avec lui et le virus va passer de cette façon dans son sang.
Le professeur Elumou insiste par ailleurs sur des risques de contamination en milieu hospitalier.
Dans cette situation, nous pouvons avoir la transfusion sanguine d'un sang qui n'a pas été bien contrôlé. Et je profite de l'occasion pour demander au public de faire très attention à l'origine du sang qui est transfusé à leurs parents, parce que plusieurs fois nous avons eu des patients qui, quelques années plus tard, se retrouvaient infectés par le virus de l'hépatite B.
10,5% des personnes infectées par l'hépatite B sont également porteuses du virus de l'hépatite D. Dans le cadre de la lutte contre les hépatites virales et la stratégie de la triple élimination, VIH, hépatite virale et la syphilis au Cameroun, le pays a acquis le vaccin contre l'hépatite B, disponible à la naissance pour les enfants nés de mères infectées. Cette dose de naissance est administrée gratuitement dans les 24 heures suivant l'accouchement dans les établissements de santé offrant des services de vaccination et d'accouchement. Une jeune mère rencontrée dans un centre de vaccination à Douala ne cache pas cependant son intérêt pour la vaccination de son nouveau-né.
Nos parents étaient ignorants. Lorsque vous vaccinez l'enfant, il y a des maladies qui ne peuvent plus l'affecter.
Introduit en 2005 dans le programme élargi de vaccination, mais administré à partir de 6 semaines, le vaccin contre l'hépatite B n'était jusqu'ici pas donné à la naissance. La nouvelle dose néonatale, entièrement financée par le gouvernement camerounais, est une preuve de l'engagement national dans la prévention de la transmission périnatale. Ce vaccin fait partie des 12 vaccins administrés aux enfants au Cameroun contre les maladies évitables par la vaccination. Henri Fotso, à Douala pour la Deutsche Welle. You need some help. Call for help when you're feeling blue. You call for help and I pull you through. You call for help, all you got to do is call for help.
Capsule Santé, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Ce numéro, comme tous les autres, est à écouter ou réécouter quand vous le voulez sur nos différentes plateformes. Au revoir. You call for help.